Chapitre 5e. Voyons, ma chère dame, quoi que vous ayez à me dire, hâtez-vous. Je ne veux pas vous presser inutilement, mais c'est l'heure de mes affaires et je n'ai pas à m'occuper que des vôtres. C'est en ces termes que M. Troy s'adressait, avec sa bonhomie habituelle, à la femme de Ferraris, tout en jetant un coup d'œil sur sa montre qu'il posa devant lui. Ensuite, il s'accouda pour écouter ce que sa cliente pouvait avoir à lui dire. C'est encore quelque chose sur la lettre qui contenait le billet de banque de 1000 livres, commença Madame Ferraris. J'ai découvert qui me l'a envoyé. Monsieur Troy fit un mouvement. Voici du nouveau. Et qui vous a envoyé la lettre?
Lord Mountbury, monsieur.
Il n'était pas facile de causer de la surprise à Monsieur Troy, mais les paroles de Madame Ferraris l'avaient absolument stupéfait. Pendant un instant, il la regarda tout étonné sans dire un mot. Pas possible, reprit-il dès qu'il fut revenu de son premier étonnement.
Vous vous trompez, cela ne peut pas être.
Il n'y a pas d'erreur possible,
reprit Madame Ferraris avec son air affirmatif. Deux messieurs du bureau d'assurance sont venus me voir ce matin pour me demander la lettre. Ils ont été fort étonnés, surtout quand ils ont vu le billet de banque. Mais ils savent qui l'a envoyé. À la demande de Milord, son médecin l'a mise à la poste à Venise. Allez vous-même chez ces messieurs si vous ne voulez pas me croire, monsieur. Ils ont bien voulu me demander si je savais pourquoi Lord Mountbury m'écrivait et m'envoyait de l'argent. Je leur ai donné mon opinion immédiatement. Je dis que c'était un effet de sa bonté habituelle.
« De sa bonté habituelle ?» répéta M. Troy, tout à fait étonné.
« Oui, monsieur. Lord Mountbury m'a connu, ainsi que tous les autres membres de sa famille quand j'étais à l'école, dans ses terres, en Irlande. S'il avait pu, il aurait protégé mon pauvre cher mari. Mais que pouvait-il entre Milady et le baron? La seule chose qu'il ait pu faire, en vrai gentilhomme qu'il était, a été d'assurer ma vie après le décès de mon mari.
Jolie explication, s'écria M. Troy.
Qu'en ont pensé vos visiteurs du bureau d'assurance?
Ils m'ont demandé si j'avais quelque preuve de la mort de mon mari. Et qu'avez-vous dit?
J'ai répondu. Mais j'ai mieux qu'une preuve, messieurs. J'ai une opinion positive à vous donner.
Et ils se sont déclarés satisfaits, bien entendu.
Ils ne l'ont pas dit précisément, monsieur, mais ils se sont gardés et m'ont souhaité le bonjour.
Eh bien, Madame Ferraris, à moins que vous n'ayez encore quelque autre nouvelle extraordinaire à m'apprendre, j'espère bien que je vais vous souhaiter, moi aussi, le bonjour. Je prends note du renseignement, fort curieux, d'ailleurs, que vous me donnez. Mais en l'absence de toute preuve, je ne puis rien faire de plus.
Si c'est une preuve que vous voulez, monsieur, et pas autre chose, reprit Madame Ferraris en se drapant dans sa dignité, je puis vous la procurer. Mais avant, je veux savoir si la loi me permet de faire ce que bon me semble. Vous avez pu voir, par les nouvelles du monde, dans les journaux, que Lady Mountbury est descendue à Londres.
À l'hôtel Newsbury, je me propose d'aller la voir.
Ne vous en avisez pas, mais au fait, pourquoi voulez-vous la voir?
Madame Ferraris répondit avec un air de mystère. Je veux la faire tomber dans un piège. Je ne lui ferai pas annoncer mon nom. Je dirai que je viens pour affaire, et voici les premiers mots que je prononcerai. Je viens, Milady, vous accuser réception de l'argent envoyé à la veuve de Ferraris.
Ah, vous pouvez être étonné, monsieur Troy.
Cela vous surprend, n'est-ce pas?
Calmez-vous. La preuve que tout le monde réclame, je la découvrirai sur son visage coupable. Qu'elle change seulement de couleur, que ses yeux se baissent une demi-seconde et je lui arracherai son masque.
La seule chose que je veuille savoir est celle-ci. La loi me le permet-elle?
La loi ne vous le défend pas, répondit gravement monsieur Troy.
Mais que Lady Mountbury vous laisse faire, c'est une toute autre question.
Voyons, madame Ferraris. Avez-vous réellement assez de courage pour mener à bonne fin une aussi difficile entreprise?
Miss Lockwood m'a dit que vous étiez très timide et assez nerveuse. Et si j'en crois à ce que j'ai vu par moi-même, Miss Lockwood ne s'est pas trompée.
Si vous aviez vécu à la campagne, monsieur, au lieu de vivre à Londres, vous auriez vu quelquefois un mouton se jeter sur le chien du troupeau. Je suis loin de dire que je suis brave, au contraire. Mais quand je serai en présence de cette misérable et que je penserai à mon pauvre mari assassiné, celle de nous deux qui aura peur, ça ne sera pas moi. J'y vais de ce pas, monsieur. Et vous verrez comment tout cela finira. Je vous souhaite le bonjour. »
Après cette déclaration de bravoure, la femme du courrier ajusta son manteau et sortit. Un sourire se dessina sur les lèvres de M. Troy, non par ailleurs, mais plein d'une sorte de compassion.
« Cette pauvre innocente, se dit-il, si la moitié de ce que l'on dit de Lady Mountbury est vrai, Madame Ferraris et son piège vont avoir un triste sort. Je me demande comment tout cela va finir. »
Et malgré toute son expérience, M. Troy ne put découvrir comment cela finirait.
Cependant, Madame Ferraris mettait son idée à exécution. Elle allait tout droit à l'hôtel Newsbury. Lady Monbury était chez elle et seule. Mais on hésita à la déranger quand la visiteuse eut refusé de donner son nom. La nouvelle femme de chambre de Milady traversa justement le vestibule de l'hôtel pendant la discussion. C'était une Française. On l'appela. Elle trancha aussitôt la question avec un air déluré, comme toutes ses compatriotes, et avec une intelligence, à son avis du moins. « Madame semble très bien, » dit-elle. « Madame peut avoir des raisons pour ne pas donner son nom, des raisons que Milady peut approuver. En tout cas, n'ayant pas d'ordre m'interdisant de recevoir, Madame s'expliquera avec Milady. Que Madame soit assez bonne pour me suivre. » Malgré la résolution qu'elle avait prise, le cœur de Madame Ferraris battait à tout rompre, quand la femme de chambre qui la précédait la fit entrer dans l'antichambre et frappa à une des portes qui s'y ouvrait. Mais il est à remarquer que les personnes du tempérament le plus timide et le plus nerveux sont en général, mieux que tout autre, capables de cacher leur faiblesse et d'accomplir des actes de courage touchant presque à la témérité. Une voix grave, partant de la chambre, cria « Entrez !» La domestique ouvrit la porte et annonça « Une dame qui demande à vous parler pour affaires, Milady. » Puis elle se retira immédiatement. Au même instant, la timide petite Madame Ferraris comprima les battements de son cœur. Elle passa le pas de la porte, les mains crispées, les lèvres sèches, la tête brûlante, et se trouva en présence de la veuve de Lord Monbury. Toutes deux étaient parfaitement calmes en apparence. Il était encore de bonne heure, mais le jour pénétrait à peine dans la chambre. Les stores étaient baissés. Lady Monbury était assise, le dos tourné à la fenêtre, comme si la lumière, même tamisée, lui eût fait mal. Elle était bien changée depuis le jour mémorable où le docteur Wibrow l'avait reçue dans son cabinet de consultation. Sa beauté avait disparu. Elle n'avait plus, comme le remarqua Madame Ferraris, que la peau sur les os. Cependant, le contraste entre son teint sépulcral et ses yeux noirs d'un brillant métallique, encore relevé par l'éclatante blancheur de son bonnet de veuve, existait encore. Accroupie comme une panthère sur un petit canapé, elle regarda tout d'abord l'étrangère qui entrait chez elle avec une certaine curiosité, puis elle laissa retomber ses yeux sur l'écran qu'elle tenait à la main pour garantir son visage du feu. « Je ne vous connais pas, » dit-elle, « que me voulez-vous » Madame Ferraris essaya de répondre. Son éclair de courage n'existait déjà plus. Ses paroles pleines de bravoure qu'elle était résolue à dire étaient encore vivantes dans son esprit, mais elles moururent sur ses lèvres. Il y eut un moment de silence. Lady Monbury regarda encore une fois l'étrangère, toujours muette. « Êtes-vous sourde ? » demanda-t-elle. Il y eut un nouveau silence. Lady Monbury reporta tranquillement son regard sur son écran et fit une dernière question. « Est-ce de l'argent que vous voulez ?»« De l'argent. » Ce seul mot redonna tout son courage à la femme du courrier. Elle retrouva sa voix. « Regardez-moi bien, Milady, » s'écria-t-elle. Lady Monbury se retourna pour la troisième fois. Les paroles qu'elle s'était promis de dire sortirent des lèvres de Madame Ferraris. « Je viens, Milady, vous accuser réception de l'argent envoyé à la veuve de Ferraris. » Les yeux noirs et toujours brillants de Lady Monbury se reposèrent avec étonnement sur la femme qui venait de lui parler ainsi. Rien ne vint troubler la placidité de son visage, pas la moindre expression de confusion ou de crainte, pas le moindre signe momentané d'étonnement. Elle se mit à fixer de nouveau l'écran, qu'elle tenait toujours aussi tranquillement que si on ne lui eût rien dit. L'épreuve avait donc été tentée, et elle avait entièrement échoué. Il y eut encore un silence. Lady Monbury semblait réfléchir. Ce sourire, qui ne faisait que paraître et disparaître, ce sourire à la fois triste et cruel, se dessina sur ses lèvres minces. De son écran, elle désigna un siège placé de l'autre côté de la chambre. « Prenez la peine de vous asseoir, » dit-elle. Impuissante maintenant qu'elle se sentait battue sur son propre terrain, ne sachant plus que dire et que faire, Madame Ferraris obéit machinalement. Lady Monbury, pour la première fois, se souleva un peu du canapé et se mit à l'observer avec un regard scrutateur pendant qu'elle traversait la chambre, puis elle reprit sa position primitive. Non, se dit-elle à elle-même, la femme marche droite, elle n'est pas ivre, elle est peut-être folle. Elle avait parlé assez haut pour être entendue. Piquée par cette insulte, Madame Ferraris répondit aussitôt. « Je ne suis ni plus ivre ni plus folle que vous. »« Vraiment ?» reprit Lady Monbury. « Alors vous êtes une insolente. J'ai remarqué en effet que le peuple anglais est assez mal appris. Nous autres étrangers, nous nous en apercevons facilement dans les rues. Je ne peux pas vous suivre sur ce terrain. Je ne saurais que vous dire. Ma femme de chambre est une maladroite de vous avoir laissé entrer aussi facilement chez moi. Votre petit air innocent l'aura trompée, sans doute. Je me demande qui vous êtes. Vous me nommez un courrier qui nous a quittés d'une manière fort inconvenante. Était-il marié? Êtes-vous sa femme? Savez-vous où il est? » L'indignation de Madame Ferraris éclata aussitôt. Elle s'approcha du canapé. Dans sa rage, elle n'avait plus peur de rien. « Je suis sa veuve, et vous le savez bien, méchante femme que vous êtes. Ah, ce fut une heure maudite que celle où Miss Lockwood recommanda mon mari comme courrier au Lord. » Avant qu'elle ait pu ajouter une autre parole, Lady Montbury sauta du canapé avec l'agilité d'une chatte, la saisit par les épaules et la secoua avec la force et la frénésie d'une folle. « Vous mentez, vous mentez, vous mentez !» Elle la lâcha enfin, éleva ses mains au ciel avec un geste de désespoir sauvage. « Mon Dieu, est-ce possible ? » s'écria-t-elle. « Se peut-il que le courrier soit entré chez nous grâce à cette femme ?» Elle revint soudain sur Madame Ferraris et l'arrêta au moment où elle allait sortir de la chambre. « Restez ici, misérable ! Restez ici et répondez-moi. Si vous criez, aussi vrai que le ciel est au-dessus de nos têtes, je vous étrangle de mes propres mains. Asseyez-vous, n'ayez pas peur, imbécile. C'est moi qui ai peur, tellement peur que j'en perds l'esprit. Avouez que vous avez menti quand vous avez prononcé le nom de Miss Lockwood. Non, je ne croirai même pas vos serments, je ne croirai personne, Miss Lockwood exceptée. Où demeure-t-elle? Dites-le-moi, misérable petit insecte, vous pourrez partir ensuite. » Toute tremblante, Madame Ferraris hésitait. Lady Montbury la menaça du geste, avec sa longue main maigre d'un blanc jaune, recourbée comme les serres d'un oiseau de proie. Madame Ferraris recula et finit par donner l'adresse. Lady Montbury lui montra la porte avec mépris, puis, changeant d'idée, « Non, pas encore. Vous direz à Miss Lockwood ce qui est arrivé. Elle pourrait refuser de me recevoir. Je vais y aller immédiatement. Vous viendrez avec moi jusqu'à la porte, pas plus loin. Asseyez-vous. « Je vais sonner ma femme de chambre. Tournez-vous du côté de la porte, que votre vilaine figure ne me voie pas. » Elle sonna. La servante apparut. « Mon manteau, mon chapeau, et vite !» Elle apporta le manteau et le chapeau qui étaient dans la chambre à coucher. « Une voiture à la porte, et tâchez que je n'attende pas !» La femme de chambre sortit. Lady Montbury se regardait dans la glace. Elle se retourna encore une fois vers Madame Ferraris avec sa vivacité féline. « J'ai déjà l'air à moitié morte, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire ironique. « Donnez-moi votre bras. » Elle prit le bras de Madame Ferraris et quitta la chambre. « Vous n'avez rien à craindre tant que vous m'obéirez, » lui dit-elle en descendant l'escalier. « Vous me quitterez à la porte de Miss Lockwood et vous ne me reverrez jamais. » Dans l'antichambre, elles rencontrèrent la propriétaire de l'hôtel. Lady Montbury lui présenta gracieusement sa compagne. « Ma bonne amie, Madame Ferraris, je suis bien heureuse de la revoir. » La propriétaire les accompagna toutes deux jusqu'à la porte. La voiture attendait. « Montez la première, ma chère Madame Ferraris, » dit Milady, « et dites au cocher où il doit aller. » La voiture se mit en marche. L'humeur changeante de Lady Montbury changea encore. Avec une sorte de râle de désespoir, elle se jeta dans le fond du cab. Perdue dans ses tristes réflexions, s'occupant si peu de la femme qu'elle avait pliée à sa volonté de faire que si elle n'eût pas été là, elle garda un silence glacial jusqu'à la maison de Miss Lockwood. En un instant, elle se réveilla de son apathie. Elle ouvrit la porte de la voiture et la referma sur Madame Ferraris, avant que le cocher eût sauté à bas de son siège. « Conduisez Madame à 1 mile d'ici, chez elle, » lui dit-elle en lui tendant le prix de sa course. Un instant après, elle avait frappé à la porte de la maison. Elle entra, la porte se referma sur elle. « Où faut-il aller, Madame ?» demanda le cocher. Madame Ferraris porta la main à son front, essayant de rassembler ses idées. Pouvait-elle laisser ainsi seule, sans défense, son amie, sa bienfaitrice, à la merci de Lady Montbury? Elle se demandait encore ce qu'elle allait faire quand un homme s'arrêta à son tour à la porte de Miss Lockwood. Se retournant par hasard, il vit Madame Ferraris à la portière de la voiture. « Venez-vous aussi chez Miss Agnès ? » demanda-t-il. C'était Henry Westwick. À sa vue, elle joignit les mains en signe de joie. « Entrez, monsieur, » cria-t-elle, « entrez tout de suite. Cette abominable femme est avec Miss Agnès. Allez et protégez-la. » « Quelle femme ?» demanda Henry. La réponse le frappa littéralement de stupeur. Quand il entendit prononcer le nom détesté de Lady Montbury, il fixa Madame Ferraris avec un regard plein d'étonnement et d'indignation. « J'y vais, »
fut tout ce qu'il put dire. Il frappa à la porte de la maison et entra à son tour.